Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Whiplash, souvenez-vous. Le film de Damien Chazelle, jeune réalisateur franco-américain. Un Oscar du meilleur second rôle masculin, entre autres récompenses. Pour cette histoire d'élève batteur qui souffre face à un professeur chef d'orchestre tyrannique. Le film a eu son succès en salle, il sort maintenant en DVD. Entre une ambiance big band et des références constantes à Charlie Parker. Thomas Baumgartner met le film face au batteur Régis Boulard et à Philippe Bertrand, homme de radio et amateur forcené de batterie. Ils nous disent ce qu'ils en pensent dans la deuxième partie de l'atelier du son. Tout de suite, parole à un poète new-yorkais qui réinvente l'écriture à l'heure digitale, Kenneth Goldsmith.
I'm Kenneth Goldsmith, a poet who lives in New York City, a city full of words. Poetry is all around us. We just need to reframe it, and suddenly it becomes our own. Now I'm going to read you a very short poem, something brand new, entitled French Writer Wins Nobel. Stockholm, Patrick Modiano of France, who has made a lifelong study of the Nazi occupation and its effects on his country, was awarded the Nobel Prize in Literature Thursday. The Swedish Academy gave the $1.1 million prize to Modiano, 69, quote, for the art of memory with which he has evoked, with the most ungraspable human destinies, and uncovered the life world of the occupation. AP.
Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. On commence directement plongé dans l'ambiance des rues de Manhattan avec un de ses habitants, un poète qui vient nous dire que New York est une ville pleine de mots et que la poésie est partout et particulièrement dans les journaux, c'est ce qu'il disait à l'instant même. Joignant le geste à la parole, il s'est mis à lire un article du journal New York Post dont il se trouve qu'il évoque cet article, le prix Nobel remis à Patrick Modiano. Et ce poète, c'est Kenneth Goldsmith. Bonsoir, Kenneth Goldsmith.
Bonsoir, merci. Thomas. Great to be with you.
Oui, mais merci. On est très heureux de vous avoir dans ce studio. On avait fait il y a quelques années une interview, mais qui était en duplex. Vous étiez chez vous, en tout cas dans un studio près de chez vous, à New York. Cette fois, vous êtes de passage à Paris, donc on en profite. Ce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est une démonstration de votre vision de la poésie ou de la création? C'est Hélène Joguet qui vous traduit ce soir.
Yes, I think it's a indicative thing.
Effectivement, c'est assez indicatif.
If you can open up a newspaper and
si
read anything.
Si on peut ouvrir un journal, lire un article, quel qu'il soit.
And see it as poetry or life
becomes. Et y voir de la poésie.
A little bit more tolerable.
La vie devient pour tout un chacun un peu plus tolérable.
Kenneth Goldsmith, vous êtes poète, vous avez fondé UbuWeb. Ubu.com, qui est devenu, on peut dire, la base de données des avant-gardes artistiques, écrites, vidéos et sonores. On va s'en rendre compte dans notre conversation de ce soir, dans la première partie de l'atelier du son. Vous êtes aussi un homme de radio, puisque vous avez, pendant une quinzaine d'années, animé une émission sur l'antenne new-yorkaise de WFMU. Et vous avez été reçu premier lauréat poète du MoMA, le Museum of Modern Art de New York en 2013. Est-ce que vous avez l'impression que vos réflexions sont mieux comprises aujourd'hui qu'en 1996, à l'époque où vous avez fondé Ubu.com?
No, I think it's become worse.
Non, en fait, je crois que c'est pire.
The more famous I become,
et plus je deviens célèbre,
the more controversial my ideas have become.
Plus mes idées soulèvent la controverse.
Mais dans le sens où on vous entend plus, donc il y a plus de réactions, ou dans le sens où plus vous êtes connu, plus vous êtes une signature, et plus il est difficile d'aller contre l'idée de la fin du copyright, par exemple.
Well, I don't know if it's so much about copyright, which
je
ne
sais pas si c'est le problème du copyright, en fait.
I think copyright has become easier in 20 years.
Ça s'est plutôt arrangé de ce côté-là, ces 20 dernières années.
But I think expression has become more difficult
en revanche,
in 20 years.
L'expression, elle est devenue plus difficile en 20 ans.
The idea that I am reflecting
l'idée, par exemple,
and not
que je réfléchis
taking a moral stance
que
on what I'm
je n'ai pas de positionnement moral en tant que tel par rapport à ce dont je suis le reflet, ce que je transmets.
It's become more troublesome. I think that
c'est devenu plus compliqué.
I think that 20 years ago
en ce sens que il y a 20 ans
we didn't have this conversation about what is proper expression.
On ne se posait pas cette question de savoir ce qui est approprié, adéquat,
and
comme expression, comme mode d'expression,
expression.
Et ce qui ne convient pas.
And I think you have are in the middle of this conversation here in Paris.
Et je crois que précisément avec Charlie Hebdo, on a eu ce débat actuellement à Paris.
And I think there is becoming great censorship. From the left now.
Et je crois qu'en fait, on a une censure qui vient de la gauche actuellement.
The censorship used to come from the right.
Autrefois, la censure, c'était l'apanage de la droite.
And now I think it's coming from the left.
Et je pense que maintenant, la censure vient de la gauche.
Vous voulez dire, Kenneth Goldsmith, que ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, devient une question beaucoup plus aiguë aujourd'hui? Est devenu une question plus aiguë et que ça brouille en fait les repères traditionnels.
Yeah, I think it's a battle now of free speech.
Je dirais que c'est un peu la bataille de la libre expression qui se joue.
And a battle of censorship.
La bataille de la censure.
It used to be easier because censorship used to come from the right.
Autrefois, c'était relativement clair. La censure, elle venait de la droite.
You know, we just heard
donc,
in New York that
par
the
exemple,
Penn Center.
À New York, le Penn Center, par exemple.
Many of the writers have resigned from their benefit in protest.
Eh bien, des écrivains, ils sont nombreux, ont renoncé à leur droit d'auteur, notamment.
Over the award
en signe
to Charlie Hebdo.
De protestation par rapport à l'attribution de ce prix à Charlie Hebdo.
And it's actually becoming something national against France.
Et ça prend une tournure nationale cette affaire, c'est contre la France.
Now I've just been involved in a similar situation.
Il se trouve que j'ai été moi-même confronté il y a très peu de temps à une situation du même ordre.
Where I read an autopsy report.
J'ai été amené à lire un rapport d'autopsie.
About the victim of political violence.
Rapport d'autopsie de quelqu'un qui avait été la victime de violences politiques.
The black man that was killed by police in St. Louis called Michael
homme,
Brown.
Michael Brown qui a été tué donc par la police à Saint-Louis.
I simply read an autopsy report.
Je me suis contenté de lire un rapport d'autopsie.
And didn't make a comment on the autopsy report.
En m'abstenant de faire des commentaires. Sur ce rapport.
I leave the reaction to the viewer.
Donc c'est au public que je laisse la liberté de réagir.
But that was not considered good enough.
Mais ça n'a pas été apprécié.
I had to get up and I had to say, police violence against Michael Brown is a bad thing.
J'ai dû me lever. Il a fallu que j'énonce le fait que la violence policière contre Monsieur Brown était une mauvaise chose.
But because I refused to do that, I was heavily condemned.
Or, il se trouve que j'ai refusé de faire cela, raison pour laquelle ensuite j'étais condamné lourdement.
And I received a death threat.
J'ai d'ailleurs reçu des menaces, une menace de mort.
You know, and it's all coming from the left, not the right.
Or, tout ça, ça vient de la gauche et pas de la droite.
Mais est-ce que ça signifie, Kenneth Goldsmith, que finalement votre ce que vous défendez, le uncreative writing, donc pour, par opposition à ce qui est une matière reconnue aux États-Unis, l'écriture créative qui s'enseigne. Vous enseignez le uncreative writing. On en a eu un exemple avec l'extrait qui a ouvert cette émission. C'est une forme de poésie, une forme d'art qui, tout d'un coup, se met à déranger. Vous avez trouvé dans cette écriture non créative une nouvelle radicalité?
Well, I didn't think it was so radical. I thought
non,
it was.
Non, j'ai pas vraiment pensé que c'était radical en tant que tel. Ça renvoyait à Duchamp pour moi.
It's kind of an old idea in most forms of art.
Rien de nouveau sous le soleil. Quand vous dites que la plupart des formes artistiques, y compris en musique.
Quand vous dites que ce sont les regardeurs ou le public qui devait comprendre le texte que vous lisiez et qui devait se faire son propre commentaire, c'est du Duchamp.
This is Duchamp. This is also
oui, c'est du Duchamp.
In France, it's musique concrète.
C'est la musique concrète aussi.
I mean, what does that mean? What is music concrète?
It means nothing. La musique concrète, ça veut dire quoi? Rien en tant que tel.
You know, it leaves it, or it's also John Cage, it's also Andy Warhol.
C'est John Cage, Andy Warhol.
You know, there's a great tradition of this type of work, though it's never been done in writing before.
Il y a une longue tradition de ce type de travail, même si ça n'a jamais fait sous la forme écrite auparavant.
Est-ce que les réactions dont vous nous parliez à l'instant vont changer ou changent déjà votre manière de travailler?
Absolutely not. I believe what I'm doing.
Absolument pas.
Is a way of really revealing
je pense political que truth. Ce que je fais, c'est un moyen de révéler véritablement la vérité politique.
Because the language of the autopsy report is filled with politics.
Ce langage qui est employé dans ce rapport d'autopsie, il est truffé de politique.
And subjectivity.
Il est empreint de subjectivité.
What can I do that says more than that?
Que faire de plus pour dire ça?
I assume my audience is intelligent enough to know that.
Je pars du principe que mon public est suffisamment intelligent ou éclairé pour le savoir.
Lui, mais on avait l'embarras du choix. Henry Flint, I Don't Wanna, qu'on a trouvé sur ubu.com, UbuWeb, ce site que vous avez fondé, Kenneth Goldsmith, en 1996 et qui est devenu d'année en année la référence pour toutes les archives et même le contemporain de l'avant-garde, de la contre-culture, etc., etc. C'est une base de données fantastique et donc Notamment, il y avait Henry Flint, un artiste américain, activiste de l'anti-art, j'avoue que je ne connaissais pas Henry Flint, et qui chantait à l'instant. Alors vous venez à Paris, vous étiez de passage quelques jours à Paris pour présenter. Alors, est-ce que c'est un livre ? Non, ce n'est pas un livre, c'est une rame de papier qui est titrée. Il y a un titre à cette rame de papier, Theory. Théorie, une version en anglais, une version en français, aux éditions Jean Boite en deux mots, et donc qui publie cette rame de papier, et qui ressemble vraiment à une rame de papier A4, sauf que sur chacune des feuilles, eh bien, il y a une phrase, il y a en fait 500 textes sur les 500 feuilles. Comment est venue l'idée de cette forme-là ?
Oh, like everything I reuse. Pre-existing forms. Nothing I do is original.
Je réutilise dans mon art de manière générale des choses préexistantes.
I was actually able to find a very obscure
poet. Et se trouve que j'ai retrouvé un poète assez obscur qui a fait la même chose que cela dans les années 60.
But of course you can't find it, nobody remembers it, so I've revived it.
Mais évidemment, il est tombé aux oubliettes, donc je l'ai restauré, j'ai ressorti un peu des placards.
Mais la différence avec plein de gens, c'est que vous le dites.
Well, I think that's the thing about this work. If you admit
oui,
it,
je le reconnais.
You're fine.
Effectivement, quand on fait ce genre de démarche, tout se passe bien parce que les gens comprennent la règle du jeu. Si vous vous présentez en disant c'est un original quand ce n'est pas un original, c'est là que les affaires se compliquent.
I never present anything
Or, je n'ai jamais présenté quoi que
trouble.
Ce soit comme une œuvre originale ou quelque chose d'original. Donc, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là.
C'est la différence entre le fake, comme on dit, et l'hommage.
Yeah, though I like fake things.
Oui, mais moi j'aime bien le fake.
I prefer fake to real.
En fait, je préfère le fake au réel.
Because I can afford it.
Parce que d'abord, je peux me l'offrir.
And one of the reasons that we
Et puis,
made this so cheap.
Une des raisons pour lesquelles on a fait justement cette présentation assez cheap, je dirais.
We want people
plutôt
to
bon
be
marché,
able to afford
c'est parce qu'on veut
this.
Que les gens puissent avoir les moyens de se payer ça.
Maybe buy two.
En acheter deux, pourquoi pas. L'un qu'on va ouvrir, qu'on va lire, et puis l'autre ramette, qu'on va laisser sur l'étagère, comme ça, en décoration.
Mais oui, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où on le lit, ça veut dire qu'on sort les feuilles de la rame de papier. Là, il y a du blister comme dans une rame de papier, alors on l'entend. À partir du moment où on veut le lire et qu'on veut commencer à lire les 500 poèmes, les 500 feuilles, eh bien, ça se disperse. C'est une manière aussi de dire, enfin je sais pas, j'imagine, une manière de dire que le livre a le droit aussi d'être dévalorisé, démonétisé, disparaître un peu. Et à la place, on a cette rame. Et si on la lit, a priori, il y a peu de chances qu'on puisse la lire une deuxième fois de la même manière.
Sure, why not? You know, I would
bah
love
oui, pourquoi
it if
pas.
It was cheap enough that you could actually use the other side.
Moi, j'adorerais qu'en fait, ça soit suffisamment bon marché pour que vous utilisiez le verso, par exemple, pour imprimer la lettre que vous envoyez à votre mère.
You know, just throw it in the recycling.
Voilà, que ça reparte dans tout ce mouvement du recyclage.
Est-ce que c'est aussi cet objet, cette rame de papier, théorie, Kenneth Goldsmith, une référence ou un écho à l'épisode où vous aviez voulu organiser l'impression de l'Internet ? Vous aviez voulu imprimer Internet.
Effectivement, une bonne partie de ces textes qu'on voit ici viennent de Twitter.
And social media is so ephemeral.
Ce réseau social, vous savez, c'est très éphémère par définition. Tous ces réseaux sociaux. Alors, l'idée d'imprimer ces messages, les avoir sur texte, sur papier, ça me semblait une idée vraiment super.
And I've always been interested in the quantification.
Et puis d'autre part, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est la quantification des choses.
How much paper does it take to print
the entire
Internet?
Combien de papier? Il faudrait combien de papier pour imprimer la totalité de ce qui est disponible sur Internet?
How many words did I speak over the course of a day?
Sur la durée d'une journée, combien de mots j'emploie pour m'exprimer?
What does a newspaper look like if you retype
the entire
thing?
À quoi va ressembler un journal si on reprend par exemple tout le texte d'un journal, on change la mise en page, on en fait un livre.
How much does the brain of Michael Brown weigh?
Quel était le poids du cerveau
so
de Michael Brown, par exemple?
Of quantification.
Et donc, il y a cet aspect quantification.
Quantified self,
qui quantified
statistics.
Les statistiques.
You know, how many steps you make,
soi, quantified body. Quantifier ce qu'on fait soi-même, combien on marche de pas. On va quantifier également les
And
valeurs
so
de notre corps, les valeurs corporelles. Donc, j'ai été intéressé depuis toujours. Au traitement de ces informations qui proviennent par exemple des données corporelles et qui permettent une quantification.
And this is why the autopsy of Michael Brown was so important.
Et c'est là que s'inscrit avec tellement d'importance cette autopsie de Michael Brown.
Because the autopsy is the original quantified self.
C'est vraiment le soi quantifié par originel.
C'est drôle parce que vous dites j'aime le fake, j'aime le faux, parce que vous dites je peux me l'offrir déjà, mais finalement d'un côté il y a ce fake, il y a cette manière assez, on va dire, voilà, sans arrière-pensée, d'utiliser le faux et avec grande liberté. Et de l'autre, il y a ce souci de quantification, d'objectivité et finalement de vérité.
Well, I think truth now is in quantity, not quality.
Je pense que la vérité, elle est en quantité, pas tant que dans la qualité à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, de nos jours, le sens des choses, tout le monde s'en fiche aujourd'hui. On veut connaître la quantité des choses, de sorte que cet aspect quantitatif, il est devenu le synonyme de la vérité aujourd'hui.
Est-ce que, Kenneth Goldsmith, vous êtes attentif aux nouveaux outils par lesquels pourraient s'exprimer de nouveaux poètes, ou par lesquels vous-même, vous pourriez trouver un nouveau mode d'expression de votre travail? Vous parliez de Twitter à l'instant. On peut suivre votre travail, effectivement, sur Twitter, et aussi vos rencontres. Est-ce que vous faites attention aux nouveaux outils?
I think that the Internet has given us back writing.
Internet nous a rendu l'écriture, en un sens.
And we're reading more.
C'est-à-dire qu'on écrit plus et on lit plus qu'on ne le faisait auparavant.
Reading and writing in different ways that are not being recognized as being properly literary.
Cette lecture et cette écriture, elles se font par des moyens différents qui ne sont pas reconnus en tant que tels comme des voies littéraires.
So the text-based mediums of the web, of social media, have
de
become a great
means of expression for poets. Le texte sur Internet est devenu un moyen d'expression important pour les poètes.
Instagram has become a great medium.
De la même manière que,
artists.
Par exemple, Instagram est devenu aussi un support important pour les artistes visuels.
Mais en ce qui concerne les éventuels jeunes artistes ou jeunes poètes, est-ce que vous regardez ces outils-là aussi en fonction des éventuelles nouvelles signatures ou nouveaux talents qui pourraient apparaître?
Yeah, younger poets don't know anything else other than this.
De toute façon, les jeunes poètes, ils n'ont connu que ça.
So to them, this is their natural environment.
C'est leur environnement naturel.
And what seems outrageous to my generation seems perfectly natural to them.
Et ce qui semble complètement dingue et inacceptable, peut-être parfois pour ma génération, pour eux, c'est sans
information
histoire,
as poetry.
C'est le béaba.
Information is poetry.
L'information est la poésie. C'est inévitable.
Le code, c'est de la poésie.
If you choose to look at it, of course.
Oui, pourquoi pas si on veut le voir comme ça.
Alphanumeric set that was used by Shakespeare.
C'est en fait le même placement alphanumérique que celui qui était utilisé par Shakespeare.
Only used.
À ceci près.
Toward a different end.
Qu'il est utilisé pour servir un autre
moyen. I think
moyen.
Bad coding that doesn't work, might be poetry. Coding that
peut-être
works.
Peut-être qu'un codage qui n'a pas marché serait assimilable
money,
à la poésie. Alors, quand le code marche, bon, il faut le vendre et gagner de l'argent. Mais quand le code n'a pas marché, il faut le prendre. C'était quelque chose qui aurait dû être utile. Si cet outil n'est pas utile, rendons-le inutile.
You know, in a way that it's sort of, it's one of the reasons I don't like so much talking about the work, because, you know, if you say too much, you lose some of that mystery that somehow ends up being there. Somehow I was able to pick up the magic of the moment and work with it. You know, that's my rush in doing photography. You know, it's like you get to a place and you can do it with a flower, you can do it with a cock, you can do it with a portrait. Where it's really kind of like you don't know why it's happening, but it's happening. You've like somehow tapped into a space that's magic.
Robert Mapplethorpe is America's most controversial photographer. His portraits of the rich and famous chronicle a fast-track New York lifestyle with wit and objectivity. But his notoriety rests on a body of photographs recording with uncompromising candor the sexuality of Manhattan's gay community in the late 60s and 70s. This work has transformed the face of fashion photography and, in the eyes of his admirers, brought a classical discipline to the photographic male nude.
Twist your body around to the upper. more. Keep on going.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
C'est Kenneth Goldsmith qui est l'invité de l'Atelier du Son ce soir dans la première partie de l'Atelier du Son sur France Culture. En ce moment, on entend encore Patti Smith, Because the Night, une chanson écrite avec Bruce Springsteen. Je crois que c'était en 78. Et juste avant, c'était son frère de sang, quasiment, on peut dire ça. C'était le photographe Robert Mapplethorpe, issu, l'extrait, c'était sorti d'un film de Nigel Finch de 1988, produit par la BBC. Et vous avez reconnu cette voix, celle de Robert Mapplethorpe, Kenneth Goldsmith, et vous saviez d'ailleurs que l'extrait était issu de UbuWeb, donc ce site que vous avez fondé en 1996. Et on voit dans ce documentaire, donc on peut voir l'intégralité du documentaire sur votre site, on voit Mapplethorpe dans son atelier, parler, travailler, dans son studio. Un an avant sa mort, donc sa mort qui est intervenue en 1989, ceux qui ont vu la grande exposition l'année dernière qui le concernait, la grande exposition Mapplethorpe à Paris au Grand Palais, se souviennent évidemment de son visage, une figure, Mapplethorpe, une figure centrale pour vous, puisque voilà. Vous l'avez mis au centre d'un livre qui n'existe pas encore en France, je crois, mais qui est votre grand œuvre des dernières années.
Well, actually, it's about to be published.
Il est sur le point d'ailleurs d'être publié ce livre.
A rewriting of Walter Benjamin's Arcades project for New York City in the 20th century.
C'est le programme de Walter Benjamin.
Called New York, capital of the 20th century.
New York, capitale du 20e siècle. C'était son ouvrage. C'est une réécriture de cet ouvrage.
Mapplethorpe is the protagonist.
Robert Mapplethorpe est le personnage principal de cet ouvrage, de la même manière que Baudelaire
Benjamin's book.
Est le personnage principal. De l'ouvrage de Benjamin.
Voilà, alors encore une fois, vous décalez un travail d'un artiste précédent. On a compris que c'était partie intégrante de votre méthode. Donc là, vous vous inspirez du livre Paris, capitale du 19e siècle de Walter Benjamin. Et là, pour New York, pourquoi Mapplethorpe, pourquoi pas Andy Warhol comme figure centrale?
Warhol would be okay. But I've already
Warhol,
written a book about Warhol.
Pas. Mais bon, j'ai déjà écrit un livre sur lui.
C'est vrai.
Selected interviews.
J'avais fait des entretiens, donc je me suis un peu fatiguée un petit peu.
Makes the book so beautiful because
c'est d'ailleurs ce qui fait toute la beauté du livre.
Hein.
C'est que Benjamin a écrit un très beau livre.
Deadly and
qu'aurait
boring.
Pu être littéralement mortel et d'un ennui mortel s'il avait été écrit par quelqu'un d'autre. Mais lui... Il était tellement intéressé par ce sujet qu'il a effectivement choisi ce qu'il y avait de meilleur pour servir son propos.
Je pense qu'il est plus intéressant pour moi, en tout cas, au moment précis, tout simplement parce que j'ai trop fait sur Warhol.
Donc, l'expression est difficile avec ce type d'écriture. Mais même quand on réécrit quelque chose, on dit de soi, on exprime quelque chose de soi. Et c'est d'ailleurs, c'est là que c'est très, très fallacieux dans ce que je fais, c'est parce qu'on dit que c'est pas expressif. C'est pas que c'est pas expressif, c'est expressif différemment.
Le livre de Walter Benjamin disait que Paris était la modernité du 19e. Est-ce que, d'une part, vous dites que New York était la modernité du 20e siècle, Et est-ce que c'est terminé? Où est-elle alors, la modernité?
There is no such thing as modernity, and there was no such thing
as post-modernity. Il n'y a pas de modernité. Il n'y a pas non plus de post-modernité.
We had modernism.
C'est-à-dire qu'il y a eu le modernisme. Après, on a eu la guerre.
Now we have the digital.
Et puis maintenant, on est passé à l'ère numérique.
That's a difference. There is no. We're living in a whole new era.
La différence. On est passé à une ère complètement nouvelle. Alors le mondialisme, l'ère globale,
and that's the difference between modernism
and what comes after modernism. Sur le numérique, c'est là toute la différence qui existe entre le modernisme et ce qui le suivra, ce qui l'a suivi.
So it's everywhere and it's nowhere.
C'est à la fois partout et nulle part.
Et ça veut dire que vous nous dites. Vous dites à ceux qui imaginent être artistes ou poètes ou qui veulent s'exprimer, tu peux le faire où que tu sois. C'est ça aussi que ça veut dire.
Well, that was what everybody hated most about printing out the internet.
Mais c'est justement ce que les gens n'ont pas aimé du tout quand j'ai fait printing out the internet, ce projet d'impression d'internet. Il y a des gens qui disaient, mais alors là, tu sabotes tout à la fois. C'est vraiment trop à la fois. Mais c'était vraiment, si vous voulez, une question d'expression. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que tout un chacun puisse imprimer un bout d'internet et participer à ce projet, c'est ça qui perturbait. Les gens, c'est qu'on puisse remanier comme ça la notion d'artiste.
Voilà, Kenneth Goldsmith qui perturbe les gens avec les mots qui sont partout, qui nous entourent, ce que vous disiez dans ce qu'on diffusait au tout début de cet entretien. Merci beaucoup d'être passé dans le studio à Paris et on vous souhaite un bon retour à New York. On rappelle cette théorie aux éditions Jean Boite, Theory, donc il y a les deux versions, en anglais américain et en français. Et on va guetter cette histoire de l'art, histoire artistique new-yorkaise dont on a parlé ce soir. Merci beaucoup, Kenneth Goldsmith.
Thank you, my dear old friend Thomas. It's great to be talking with you again.
Merci.
Quelle joie de se retrouver.
Et merci, Hélène Joguet, pour la traduction.
Comment tu t'appelles?
Andrew Niemann, monsieur.
T'es en quelle année?
Je suis en première année.
Tu sais qui je suis?
Oui, monsieur.
Tu sais donc que je recherche des musiciens?
Oui, monsieur.
Alors pourquoi tu t'es arrêté de jouer?
Écoutez l'atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Voilà un bon début d'histoire. C'est le début du film Whiplash qu'on vient d'entendre de Damien Chazelle, on le dit en français, son papa est français, qui vient de sortir en DVD et qui a remporté quelques Oscars, dont le meilleur second rôle masculin, meilleur mixage son, et puis on va jusqu'au bout, tiens, meilleur montage. Whiplash, c'est un morceau de Hank Levy, histoire d'un jeune passionné de batterie dans une école de musique de New York, un passionné de batterie qui aimerait trouver dans son professeur un mentor, mais celui-ci, essentiellement, le fait souffrir, le tyrannise, on peut dire, et joue avec lui comme avec ses autres élèves, il se la joue plutôt sergent-instructeur, et c'est plutôt ça l'image, plutôt ça que musicien, donc passion, douleur, musique, écoute, théâtre. on s'est dit qu'on allait mettre le DVD, puisque donc le film est sorti sur les écrans il y a quelques mois, mais maintenant il sort en DVD et sur quelques plateformes légales de téléchargement. On allait donc mettre ce film sous les yeux de quelques connaisseurs, à commencer par vous, Régis Boulard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes batteur, compositeur, compagnon de route ces derniers temps d'Olivier Mélano,
absolument,
de Noël Achoté,
oui.
Voilà, quelques belles signatures, habitués de ce studio. Et à côté de vous, il y a Philippe Bertrand, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Mais oui, Philippe Bertrand, ouais, l'homme des carnets de campagne, ouais, sur France Inter, ouais, tous les jours de la semaine, à midi et demi. Et grand amateur, admirateur de batterie.
Ah oui, absolument. Bah, propriétaire d'une batterie,
ouais,
producteur de batterie. Mmh. Ma première était sur des barils de lessive il y a de nombreuses années.
Idem.
Ouais, voilà, c'est
pareil,
parfait,
Régis. Voilà. Et voilà, sauf que par Régis est professionnel, moi je suis un amateur éclairé à la bougie. Hein. C'est la grande différence.
Régis Boulard, vous, alors, avant même les paquets de lessive, il y a l'écoute.
Ouais.
Et ça se passe à l'âge de 10 ans. Avec les Who, c'est ça?
Pour la batterie, ouais, mais pour le tambour, c'est avant, en fait. C'est,
ouais,
c'est les westerns.
Ah ouais.
Et la pulse des Indiens. Et puis après, c'est la fanfare dans le petit bourg de mes grands-parents. Où, en fait, j'étais vraiment petit, je les voyais venir. Donc, c'était comme un travelling, en fait. C'était, mm-hmm, très cinématographique. Les tambours et la grosse caisse sont devant. Et donc, une fois que le gros des vibrations était passé, je courais pour aller un peu plus loin et revivre la sensation. Ça me submergeait à la fois de trouille et de joie louche et suspecte.
Ah ouais,
ouais,
c'est,
ah oui, oui.
C'est ouais, ça ressemble presque à un conte, quoi, le ouais, tambour,
ouais,
dans le village, quoi.
C'est ça. Et puis un jour, j'ai trouvé une pile de 45 tours qu'un ami de mes parents avait laissé. Dedans, il y avait les Who. The Who, en l'occurrence, et le morceau Baba O'Reilly. J'ai d'abord écouté la face B, en fait, qui était My Wife, que je trouvais terrible, mais bon, voilà. Et Baba O'Reilly, qui était la face A, je l'ai écouté une fois, il y a une première relance de batterie qui est très belle, et à la seconde, je pense que j'aurais pu tomber dans les pommes, en fait.
Ah oui.
Et vraiment, mais c'est pas une histoire, quoi. C'est-à-dire que, et donc je repassais, j'avais un électrophone mono, hein, et je repassais, je cherchais l'endroit, je l'ai repassé peut-être 100 fois. Et jusqu'à ce que je comprenne, quoi, que c'était un seul gars.
Il y a un
gars,
trou dans le disque maintenant.
Ouais. Pour le pauvre disque, je sais pas où il est. Mais jusqu'à ce que je comprenne, quoi, que c'était un seul gars qui faisait ça. Et en fait, j'entendais l'air maltraité dans la batterie. J'entendais l'air bouger sous la batterie.
Keith Moon.
Ouais.
Keith Moon, le batteur des Who,
ouais,
qui finissait assez souvent la tête dans la batterie. Hein, faut dire,
ouais, c'est surtout la tête de ses copains dans la batterie. Mais voilà, malheureusement, qui en est mort, on peut le dire.
Ouais. Mais il y a quelque chose de très dans ce que vous décrivez, dans l'effet que ça vous a fait petit, y compris que ce soit la fanfare ou ce disque, c'est de la vibration, c'est du physique, quoi.
Totalement.
Ouais.
Vibration.
Mmh.
Ouais, ouais. Vraiment, enfin, il y a que ça qui m'intéresse finalement. Je m'aperçois qu'il y a que ça qui m'intéresse.
Mmh. La vibration.
Ouais, ouais, vraiment. Mmh. Ouais, ouais. Si je dois résumer, quoi. Enfin, voilà.
Philippe Bertrand, mmh, ce disque-là, oui, vous jouez au Pinet du Chef.
Oui, bien sûr, mais Baba O'Reilly, ça, je suis complètement d'accord avec Régis, et Who's Next. Voilà, j'ai commencé à baver sur la batterie avec les Beatles, c'est pas très original. Et puis, il y avait les sensations, les vibrations, comme dit Régis. Moi, j'étais marqué par, c'est peut-être pour ça que je suis qu'un amateur assez peu éclairé, j'étais plutôt spectateur de la batterie. Et je trouve quelque chose d'esthétique très fort, c'est presque un instrument solaire. D'abord, une lumière qui fuse sur une cymbale, c'est d'une beauté, moi, je voyais. C'était la campagne, carnet de campagne, la campagne, mmh, donc les orchestres de bal du samedi soir. Et puis je voyais la batterie sur l'estrade et môme, je me disais, c'est d'une beauté, c'est presque une belle carrosserie.
Mmh, elle est chrome.
Oui, il y a, mmh, les chromes, ouais, les rhodoïdes, il y a toutes les couleurs, c'est d'une très très grande variété et c'est un instrument solaire.
Mmh. Il y a une chose qui vous plaît justement en parlant des je crois en tout cas, en parlant des balles, mais c'est que la batterie, elle traverse les genres aussi,
ouais, ouais,
sans racisme d'un genre à l'autre.
Oui, bien sûr. Puis tous les styles. Mais c'est vrai qu'on, enfin, Régis en parlera mieux que moi, mais l'imagerie du bal, c'est la batterie est un instrument d'accompagnement. Donc il y a la rythmique, la basse ou la contrebasse, alors que en fait toutes les cultures ont enrichi la percussion parce que d'abord elle est première et que très souvent les batteurs sont d'abord des vrais compositeurs et des interprètes à part entière. Ils ne sont pas soumis à un ensemble ou à d'autres musiciens. Ils ont une place à part entière et très souvent même avec des personnes comme Régis, parce que j'ai entendu un peu son travail. Il me fait penser à Bill Bradford, c'est Kim Grimson, et c'est la même inventivité. Je suis un peu nostalgique de ça, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Oui, c'est-à-dire que je pense que le nombre de blagues assez sordides qui circulent sur les batteurs reflète cette espèce d'inquiétude que pas mal de musiciens ont par rapport à cet instrument. Il y a peu de musiciens qui écoutent la batterie, en fait. Ils l'entendent, ils la subissent, ou au contraire, ils s'appuient dessus, mais ils ne l'écoutent pas.
C'est une manière de se venger?
Non, je crois. Oui, pour les blagues, oui, bien sûr. Bah, ouais, ça, c'est comme les blagues sexistes. Hein. C'est les hommes qui ont peur des femmes. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Et je pense que pour les Belges, c'est pareil. D'ailleurs, je pense que ce pays tremble face à la Belgique. Mais voilà quoi. Enfin.
Pourquoi on aurait peur de la batterie?
Parce que je pense que vraiment, ça fout les jetons, quoi, la batterie. Et c'est fait pour ça, quoi. Pas que pour ça. On peut faire vraiment autre chose, mais. C'est Tony Williams hein, qui disait peu de temps avant de mourir que les journalistes lui reprochaient de jouer trop fort. Il disait mais je vais jouer encore plus fort parce que c'est fait pour ça. Et après il était assez vulgaire, je vais pas le dire parce qu'on est sur une radio honorable, mais voilà quoi. Enfin, et je partage ça quoi. C'est aussi fait pour faire peur.
Alors puisqu'on a aussi pour parler de Whiplash, donc de ce film qui sort en DVD, là c'est pas la batterie qui fait peur, c'est plutôt l'enseignant, le chef d'orchestre. Voilà justement, on va écouter l'ambiance de la salle de répétition du Schaffer Conservatory, une sorte de recréation de ce qu'on imagine être, en tout cas la référence sans doute, la Juilliard School. Et donc on entend l'ambiance et ce chef d'orchestre tyrannique, Terence Fletcher, en bilingue.
This one really upsets me. We have an out-of-tune player here.
Il y a quelque chose qui me gonfle vraiment. On a quelqu'un qui joue faux parmi nous.
That player care to identify himself?
Mais avant que je continue, ce quelqu'un veut-il se faire connaître?
No? Okay, maybe a bug flew in my ear.
Non? D'accord, j'ai peut-être un bourdon dans l'oreille. Mesure 115.
No? My ears are fine.
Mes oreilles vont bien. On a effectivement affaire à quelqu'un qui ne joue pas juste.
Whoever it is,
alors, qui que ce soit, c'est ta dernière chance.
And there it went.
Et tu l'as laissé passer.
Now, either you are
alors, soit tu joues délibérément mal et faux dans le but de mettre mon groupe dans la merde, ou tu ne sais pas que tu joues faux. Ce qui, j'en ai peur, est encore pire.
Reeds.
Hanche.
Bones.
Trombone.
5-6 and. He's here.
Je le tiens.
Tell me it's not you.
Dis-moi que c'est pas toi, Gradubide.
It's okay.
C'est pas grave.
Play.
Joue.
Do you think you're out of tune?
Est-ce que tu crois que tu joues faux?
What are you? There's no fucking Mars
par terre. Putain, y a pas de Mars par terre. Qu'est-ce que tu regardes?
Look up here, look
at me. Lève les yeux. Regarde-moi.
Do you think?
Est-ce que tu crois?
You're out of tune.
Que tu joues faux?
Yes.
Oui.
Then why the fuck didn't you say so?
Mais nom de Dieu, pourquoi tu le dis pas alors? Je me coltine ton gros cul depuis trop longtemps, Metz. J'ai pas envie de perdre une compétition parce que tu penses davantage à un puis mille qu'à suivre la partoche. Félicitations, Jackson, tes quatrièmes trombones. Quoi, t'es encore là, Metz? Putain, mais fous-moi le camp! Pour votre info, Metz ne jouait pas faux. C'est toi, Erickson. Mais il ne le savait pas. Et c'est pas normal. On se fait une récré. Et juste après, il puce au jouera.
Voilà, donc on a mélangé les deux langues, en tout cas pour cet extrait, évidemment, quand on regarde le film, c'est soit en anglais, soit en français. J.K. Simmons, l'acteur américain, il a reçu l'Oscar du meilleur second rôle pour ce rôle de... Bah, d'enseignant, est-ce qu'on peut dire enseignant, Régis Boulard?
C'est un drôle de mot, parce qu'il
est saignant.
Ouais, saignant.
Saignant,
ouais,
bah, oui, au sens voilà, même propre, puisque les doigts de l'élève.
Il y a beaucoup de sang là-dedans.
Il saigne en jouant.
J'ai toujours appris qu'un musicien qui se blessait, c'était un musicien qui savait pas jouer.
Ouais.
Donc là, c'est QFD, quoi. Mais j'avoue que j'ai toujours pas compris où voulait en venir ce film.
Voilà. Dites-nous comment vous l'avez reçu, regardé.
Pour aller très. Alors, je m'étais dit que je le regarderais qu'une fois avant de venir vous voir pour pas trop analyser, pour le coup, et rester sur quelque chose d'un peu brut. Et Le paradoxe central de ce film, pour moi, c'est que, comment dire, le prétexte qu'invoque ce petit dictateur pour pousser ses élèves plus qu'à bout, c'est que il risquerait sinon d'empêcher le monde de découvrir le nouveau Charlie Parker. Et tout se passe sur une musique totalement has-been. Le mec cité sans arrêt, c'est Buddy Rich, qui a toujours joué de la musique has-been. Alors, mais par contre, un athlète extrêmement performant, hein, mais bon, voilà, musique de big band, quand lui est arrivé, l'histoire était déjà quand même plutôt vers sa fin. Et lui a continué à faire exactement la même musique jusqu'à sa fin à lui, sa propre fin à lui. Et il n'est question que de ce batteur-là. Il est question de Joe Jones qui aurait jeté sa cymbale à la figure de Parker, ce qui est absolument pas vrai en plus. Enfin,
qui aurait permis à Charlie Parker de comprendre.
Voilà, c'est ça. Et
la voix à suivre.
Le seul problème, c'est que Parker, à ce moment-là, il est en train juste d'inventer le bebop. Donc c'était une révolution, une des quelques révolutions du XXe siècle, qu'on a eu quand même quelques-unes, mais celle-là, elle est majeure, elle aussi. Et que là, il n'est question que d'une musique de répertoire, jouée sans aucun autre état d'âme que de la jouer, entre guillemets, parfaitement. C'est-à-dire parfaitement comme l'entend ce gars, et point barre. Jamais il est question de style, jamais il est question de création. Alors d'individualité encore moins évidemment, et pourtant l'exemple sans arrêt cité c'est l'hyper-individualité, c'est-à-dire quand même un musicien qui invente une musique avec deux ou trois autres, mais ils sont pas nombreux, hein, ils sont quelques-uns. Il y a lui, il y a Gillespie, il y a Monk, il y a Roach, et puis voilà quoi, on a quasiment fait le tour là. Donc ça c'est quand même le point central qui fait que ce film pour moi ne tient pas debout en fait quoi. Sans parler du sadisme permanent, de la souffrance, l'apprentissage dans la souffrance. Je pensais qu'on était sorti un peu de cette idée-là, si ce n'est sa propre souffrance. Hein. Évidemment que je me suis fait mal et que je me fais encore mal, mais ça me regarde moi et c'est pas sous les ordres de quelqu'un. Et quand je souffre, ça veut dire qu'il faut que je trouve une porte de sortie, quoi, quelle qu'elle soit, que ça soit par en forçant ou au contraire en contournant. Donc voilà, c'est pour moi c'est le point central, c'est ça, quoi. Ce que je ne comprends toujours pas. Après, bon, il y a des trucs, ouais, voilà.
Mais dans le sens où cette douleur-là, même cinématographiquement, vous y trouvez pas votre compte ?
Non, pas du tout. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne de s'arracher les mains, sachant que le lendemain on va jouer, quoi. C'est juste ça. Il m'est arrivé de devoir jouer avec un pied en très mauvais état pour des raisons complètement extérieures. Ben, c'est juste l'horreur. C'est-à-dire qu'on a mal tout le temps, on y pense tout le temps. Donc c'est quoi ce truc de se mettre des pansements et de, enfin juste sur ce détail là quoi. Et puis on voit ce jeune gars essayer de pousser sa vitesse et à ce moment-là il ne fait absolument pas de musique. C'est-à-dire que globalement pour parler crûment c'est à chier.
Ah oui, techniquement, votre rêve, vous
voilà, c'est ça. Il y a plus aucune maîtrise, plus rien. Il est juste comme si on lui avait branché des électrodes. Et vous savez, comme les trucs pour se faire les abdos, là. Et puis voilà. Alors, je pense pas que ce film s'adresse aux musiciens et encore moins aux batteurs. C'est autre chose, quoi. C'est la première moitié de Full Metal Jacket, quoi. Enfin,
c'est vrai qu'il y a les vrais parallèles. Et certains se demandaient si c'était le même comédien, c'est pas le cas.
Mais c'est vrai, Donc voilà, quoi. Après, il fallait faire un film avec ça, je pense.
Bah, c'est un deuxième film, je crois, de Damien Chazelle. C'est issu, paraît-il, de sa propre expérience de jeune batteur en école de musique aux États-Unis.
C'est de la batterie de cuisine, c'est pas batterie musicale.
Alors que vous l'avez regardé comment, vous, le film?
Comme Régis, alors hélas, on pourrait faire un contresens. Je suis incapable de dire le contraire, même. J'épouse exactement les mêmes mots et la même vision, avec une forme de colère, parce que il y a une déception. La batterie est omniprésente. Quand j'avais vu la bande-annonce, il y avait quelque chose d'assez alléchant. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant, ce rapport maître-élève, et se retrouver dans un contexte de classe américaine qui se veut tonitruant, parce que l'instrument est omniprésent, parce que l'instrument est fort et puissant, comme le disait Régis. Et en fait, c'est une grande déception. D'abord, l'instrument est omniprésent, il est vilain. Je parlais d'esthétique tout à l'heure. Je trouve la batterie pas belle. Les sets sont vilains.
Ah oui, vous disiez tout à l'heure, la batterie, ça peut être un bel objet. Oui. On la voit pas là, en fait.
Elle est omniprésente, mais elle est tellement omniprésente qu'elle est insignifiante. Et en devenant insignifiante, elle est banalisée. Et tout reste sur une caricature. Ce que disait Régis par rapport Il n'y a certainement aucune école qui fonctionne comme ça. Et s'il y en a, on fabrique des ânes, hein, j'imagine. C'est qu'on, très souvent, on dénonce la production musicale. Mmh. Avant la production musicale, il y a l'usine. Et là, c'est pas une école, c'est une usine. Voilà. Et c'est un film de guerre. Mmh, mais un film de guerre qui dure, c'est un court-métrage à l'origine, là, qui dure quand même 2h20. Mmh. C'est-à-dire que Damien Chazelle a étiré le film pour en faire un long-métrage.
Mmh. Par rapport au truc, film de guerre, au bout d'un moment, j'ai repensé à autour de Minuit de Tavernier,
ouais.
Où Dexter Gordon dit, à un moment, il raconte une mauvaise expérience quand il était sous les drapeaux, et il dit, il réfléchit comme ça, puis il dit, je pense que le bebop a été inventé par des gars qui ont réussi à se tirer de l'armée. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit là, en fait? Exactement l'inverse. Ouais. C'est sidérant. Et il parle de Charlie Parker tout le temps. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand même, c'est un assassinat quant à la musique, quoi. Parce qu'il n'est jamais question de musique. Mm-hmm. Il n'est jamais question de nuances, d'air, de silence. Le seul moment où la musique est down tempo, c'est quand on apprend qu'il y a un gars. Alors on nous dit que d'abord il a eu un accident de voiture, puis on apprend qu'il s'est suicidé. Donc je pense que c'était le tribut à payer pour le malheur des jazzmen qui meurent. Donc on se drogue plus, mais on se bute direct. Là, la musique est down tempo. Et le deuxième moment, c'est quand on voit ce prof jouer du piano,
ouais,
sur un truc.
Une fois qu'il est viré.
Voilà, dans un club, down tempo total, et c'est tout, quoi. Tout le reste, c'est à blinde, à fond.
Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin de former des musiciens qui doivent être des bons mécaniciens pour ce type de big band qui est le centre du film? C'était band d'école qui fait des concours, voilà, c'est ça.
Si, puis il y a un truc dans l'air du temps, parce que c'est pas que dans la musique de jazz, c'est un peu partout. Enfin, les guitares héros de tous les styles de musique, métal et compagnie, c'est un peu le même truc. Voilà, le seul problème, c'est le propos. C'est juste, si on nous disait, bah voilà, c'est les JO de la batterie, logique, moi je comprends. Enfin voilà, sauf que je ne crois pas qu'on laisse les sportifs se faire du mal, hein, se blesser. Mm-hmm. Je pense pas, en tout cas. Enfin, les bons coachs, comme on dit. Mais c'est pas ça qu'on nous dit. Ce qu'on nous dit, c'est je ne veux pas rater le prochain génie.
Mm-hmm. Et je laisse tous les autres de côté.
Ben voilà, voilà. Alors déjà, bon, il est qui, lui, pour décider, hein, blablabla.
C'est un échec, hein, puisque au bout de 20 ans de cours, il n'a pas fabriqué le génie.
Mm-hmm. Voilà.
Donc la méthode est mauvaise.
Et lui-même semble être un musicien très outsider, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est pour moi, c'est le point central de l'arnaque. En fait, c'est là, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il y aurait à sauver alors de ce film?
Il y a la toute petite partie musicale, parce que d'abord on n'a aucun plaisir musical. Il y en a pas de musique, comme disait un nouveau Régis. D'ailleurs, c'est une musique exécutée. Hein. Il y a des termes souvent paramilitaires dans la musique. C'est une musique exécutée. Il y a évidemment la dernière scène, caravane, solo de batterie, etc.
Et puis un beau retournement de fin, scénaristiquement, il y a quand même quelque chose là.
Pour le suspense, ça marche bien. Voilà. Alors, le solo de fin, c'est un solo totalement plagié sur Buddy Rich.
Exactement.
Totalement.
Exactement.
Il y a une scène qui m'a touché, moi, c'est Repas de famille.
Ouais.
Où là, enfant dit des choses vraies. Ça dure 3 minutes. C'est pas exploité. Et je me suis dit, chouette, le film commence là. Mm-hmm. Bah, il s'est arrêté là aussi, pour moi. Enfin, vraiment. Hein,
sur la reconnaissance de l'artiste dans sa famille.
Alors, il y avait ça d'un côté, totalement. C'est-à-dire, bon, voilà, le gars dit, voilà, j'accède à quelque chose, tout le monde s'en fout. L'autre à côté, il fait du football américain, c'est bien plus intéressant. Mais après, son père, quand même, son propre père, a réagi en disant que pour lui, mourir à 34 ans, le nez plein de coke et les veines remplies d'héroïne, ça lui semble pas être le meilleur chemin. Mm-hmm. Et le gamin, lui, est en train déjà de thésauriser sur ce qui se passera après sa mort. Et donc là, il y a le vrai mur là. On y est. Et malheureusement, ça s'arrête là, quoi. Parce que le gamin ne parle jamais de ce qu'il a à dire. Parce que quand on est musicien, j'ai aucune hiérarchie là-dedans, mais alors strictement aucune. On peut être exécutant, c'est Philippe. Voilà. Et puis faire sa vie et être heureux avec ça. Et puis on peut aussi se dire, parce que lui il veut être le meilleur, hein. Il veut être le meilleur. Le meilleur de quoi, j'ai pas compris. Mais à aucun moment il ne parle de ce qu'il a à nous dire, quoi. Et à qui il parle, de quoi il parle, à qui il parle, ça n'apparaît jamais, ce truc-là.
Et Thomas, est-ce que je peux poser une question technique à Régis?
Bien sûr, c'est fait pour.
Est-ce qu'on peut percer d'un coup de poing une peau de caisse claire?
Alors j'ai pas essayé. je suis déjà passé à travers les pots de caisse claire. En fait, non, on peut pas.
On peut pas.
On peut pas parce que en fait c'est quelque chose qui est tendu. Il y a un rebond, quoi. Donc
parce que dans le film, d'un coup de poing, voilà, il va s'arracher la main en perçant la peau de caisse claire.
Non,
c'est
on peut
impossible.
Pas. Ou alors ça veut dire qu'il y a déjà un trou dedans. Oui. Et là, ça lâche, quoi. Mais non, on peut pas. Il y a beaucoup d'erreurs techniques. Hein. Énormément d'erreurs. Il y a des trucs sidérants, quoi. Enfin, on entend une cymbale et il frappe sur la même. On en entend une autre, etc. Mais bon, ça c'est très anecdotique, ça intéresse que les batteurs.
Bon, moi c'est intéressant aussi, mais on va parler un peu de liberté. Alors après avoir parlé de toutes ces contraintes dans Après tout, par exemple, votre album, vous êtes le compositeur, Régis Boulard.
Oui.
Là, il y a un peu plus de liberté.
Ah oui, totalement. Oui. Mais pour le coup, j'avais des trucs à dire.
Ouais.
C'est pour ça. Donc oui, enfin, je fais partie des gens qui n'ont aucun état d'âme sur le comment, quoi. Je m'attache au pourquoi et puis le reste à suivre. C'est l'intendance, ça, donc voilà quoi.
Et ça, c'est un dialogue que vous avez mené avec Olivier Mélano, le guitariste.
Oui, c'est même un. En fait, c'est un monologue. C'est-à-dire, j'ai fait le gros du disque d'abord, et puis après, et sur de longs mois en fait, hein, ça s'est étalé gentiment comme ça. J'ai un ami ingénieur du son qui comprend ma batterie, et donc on y allait de temps en temps, on se rendait des services. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que ça suffisait comme ça. Et puis après, j'ai proposé à Olivier, voilà, t'en prends deux ou trois si tu veux. Puis il m'a dit, bah je veux bien en prendre plus. et lui, par contre, est allé très vite. Ça s'est fait en une journée les prises de guitare. Et donc c'était presque deux monologues en fait, quoi, pour éviter les traquenards. On se parle l'un à l'autre, quoi. On essaie de parler à tout le monde plutôt que de parler l'un à l'autre, quoi.
Et vous, quand vous parlez, c'est avec la batterie aussi, avec la voix sur certains morceaux.
Oui. Je commence à rigoler avec ça, ouais.
Par exemple, sur le morceau Dehors, avec lequel on va se quitter, c'est sur l'album donc Après tout qu'on trouve sur votre compte Bandcamp. On peut le trouver par là et l'acheter par ce biais-là. Merci à tous les deux, Philippe Bertrand, Régis Boulard, d'être venus nous parler de Whiplash. Bon, voilà, tant pis pour eux. Hein.
Mais c'était avec plaisir.
Merci.
Voilà, c'est la fin de l'atelier du son. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Delphine Baudet. Pour aller plus loin, podcaster, commenter, réécouter, rendez-vous sur franceculture.fr. Et dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture. Et à vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine qui suit dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction Oswald de nuit, de l'auteur Samuel Gallet, réalisé par Christophe Hoquet. Mercredi soir, l'atelier État d'âge de Valérie Deschênes et Anne-Pascale Desvignes. Jeudi soir, Le poids du ciel de Provence de Bernard Faure et Lionel Quentin. C'est à Saint-Michel, près de Manosque, sous le ciel le plus pur d'Europe, que s'est installé il y a déjà longtemps l'Observatoire de Haute-Provence, puis un peu plus tard, le Centre Astro, assurant une large diffusion de la culture scientifique. Progressivement, la vie du village a changé, Saint-Michel s'est adapté jusqu'à devenir Saint-Michel, l'Observatoire. Vendredi soir, dans l'atelier du son, une discussion autour d'Alan Lomax. Thomas Baumgartner a convié Arthur B. Gillette du groupe Moriarty, Stéphane Deschamps pour le festival Rush qui célèbre la naissance d'Alan Lomax et William Ferris, artiste et collectionneur sonore américain. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster les ateliers de la nuit, ateliers fiction, ateliers de la création, ateliers du son, ateliers intérieurs, Tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit et c'est l'heure des nuits.